Bonjour Rachida Brakni.
Bonjour.
Bienvenue dans ces matins. Vous êtes très matinale. D'ailleurs, je salue aussi Zaya Ziwani qui est avec nous. Bonjour Zaya Ziwani. Vous connaissez toutes les deux. Alors ça, j'ai découvert Zaya Ziwani. Vous connaissiez aussi Naïssa Mjalal. Rachida Brakni, vous la connaissez parce que vous allez lire des poèmes ce soir à la Nuit de la Poésie à l'Institut du Monde Arabe avec la musique de Naïssa Mjalal. Mais je me tourne juste une seconde vers vous Zaya Ziwani. Vous la connaissez comment Naïssa Mjalal?
En fait, on a été amené à se rencontrer par l'intermédiaire d'un orchestre qui souhaiterait qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai qu'elle comme moi, on aime bien la rencontre entre les musiques, entre les cultures. Et c'est vraiment une philosophie qui me guide dans la programmation que je porte avec l'Orchestre Symphonique Divertimento, de montrer comment le répertoire symphonique s'est aussi beaucoup inspiré d'autres cultures du monde ou d'autres disciplines artistiques. Donc toutes ces belles rencontres, elles sont toujours au cœur de ma réflexion dans la musique. Et donc assez naturellement, c'est une rencontre qui devait se faire et qui va se faire là très prochainement.
Qui va se faire très bientôt et qui se fera ce soir avec vous, Rachida Brakni. Puisque c'est vous, avec Naïssa Mjalal, qui ouvrirez les réjouissances à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres. C'est la troisième édition de la Nuit de la Poésie. Cette musique, vous la connaissiez avant de lire des poèmes que vous allez faire ce soir avec elle?
La musique de Naïssa, oui, parce qu'en fait, on s'est rencontrés il y a quelques années. Je travaillais sur un album avec Mick Jones et Naïssa m'était venue jouer des morceaux, enfin était venue improviser et c'était assez troublant et assez réjouissant parce qu'en fait c'était vraiment très rock, Mick Jones, les Clash et Naïssa m'est arrivée et c'était assez étonnant de voir la façon de travailler de cette jeune femme, alors que les musiciens français, entre guillemets, ou anglais, qui ont besoin de leur partition, qui sont, enfin voilà, je ne connais pas la musique, mais en tout cas, elle est arrivée, et elle s'est mise à improviser sur ce qu'ils faisaient, et je voyais bien qu'ils étaient eux-mêmes très surpris de sa façon d'aborder la musique. Et c'était très beau de voir la rencontre, non seulement de cultures différentes, mais aussi de façons de travailler totalement différentes. Une façon de s'approprier la musique, de l'entendre. Elle a cette capacité comme ça à s'insérer dans un morceau et de proposer proposer. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quand on m'a proposé d'ouvrir les nuits de la poésie à Lima, j'ai tout de suite évidemment pensé à elle.
Jack Lang, qui dirige l'Institut du Monde Arabe, écrit pour cette Nuit de la Poésie que la poésie est un souffle qui réunit les âmes dans la grâce, la force et l'espoir. Il se trouve que c'est la troisième édition. La première édition avait été créée donc en novembre 2016, c'était un an après les attentats de Paris. C'est aussi un partage de mémoire et vous le vivez comme ça en y participant, Rachida Brakni?
Oui, je crois que c'est aussi le pouvoir de la poésie. C'est un moment comme ça, un moment suspendu où on se retrouve par l'évocation, de certains poèmes, se retrouver autour de, c'est presque comme une veillée en fait. Et c'est ça qui m'intéresse dans la poésie, c'est que la poésie n'a rien de didactique. La poésie n'est pas là pour nous imposer une vision du monde. Elle est juste là et c'est le rôle des poètes d'ailleurs, tout d'un coup de se laisser traverser par tout ce qui nous environne, par tout ce qui peut se passer. En l'occurrence, là, ce soir, ce sera autour, en tout cas, en ce qui nous concerne, autour de la poétesse Maram El-Masri et de la situation en Syrie.
Qui est syrienne.
Tout à fait.
Exilée.
Et puis, nous rappeler, que ce peuple et que ce pays, encore aujourd'hui, traverse des choses absolument innommable, enfin et du coup voilà, c'est se retrouver et se dire voilà, on ne vous oublie pas, on pense toujours à la Syrie et je pense que c'est le but aussi de cette soirée, c'est encore une fois voilà faire pause et se laisser traverser par les mots d'un poète, par sa musicalité, par son rythme, par sa pulsation et c'est une forme de communion, je pense.
Vous accepteriez ce matin en avant-première pour nous donner un avant-goût de ce que ce sera ce soir, de nous lire quelques vers de cette poétesse Maram El-Masri?
Oui, avec plaisir.
Ah, c'est gentil. Alors on va vous écouter. Peut-être d'ailleurs on va vous écouter en musique, accompagnée par Naïssa Mjalal, comme vous le serez ce soir. Rachida Brakni, on vous écoute.
Sur le mur d'une école, le mot « liberté » a été écrit avec de la craie blanche, par les petites mains des écoliers. Sur le mur de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang. Elle va nue, la liberté, sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés. Ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gercent de froid et de souffrance. Mais elle avance. Elle passe avec ses enfants accrochés à ses bras. Ils tombent sur son chemin. Elle pleure, mais elle avance. On brise ses pieds, mais elle avance. On coupe sa gorge, mais elle continue à chanter. Dans l'immeuble de mon enfance, Oum Ali ouvre la cage du soleil avec son sourire. Oum Mohammed secoue de son tapis les soucis et les chagrins. Oum Georges orne de dentelles blanches les robes de ses filles pour aller à l'église. Pas loin, Oum Azad repasse le châle et le chabek. Abou Sven, dans sa boutique, coud un beau costume pour la fête de son voisin Mustapha. Dans mon pays colorié de montagnes et de vallées, de plaines et de forêts, il y a la mer et les rivières. Il y a des mosquées, des églises, des synagogues et des bars. Il y a des sunnites et des alaouites, des druzes et des ismaélites, des chiites et des laïcs. Il y a des couleurs et des nuances dans une même patrie.
Merci Rachida Brakni pour cette lecture rapide. Elle sera plus longue ce soir à 19h à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Vous aviez fait un spectacle seul en scène qui campait trois femmes dont les destins fusionnaient un jour d'attentat. Oui. Ça s'appelait « Je crois en un seul Dieu ». Cet été à Arles, vous avez lu des textes de la journaliste et romancière turque Asli Erdoğan. Ce soir, vous avez donc choisi de lire des vers d'une poétesse syrienne exilée. Est-ce que vous êtes de plus en plus en lien dans votre travail avec ce qui se passe dans notre monde?
Non, pas de plus en plus en lien. Enfin, je pense l'avoir toujours été. Après, évidemment, ça dépend de tout un chacun, mais moi, j'ai toujours considéré que le métier d'artiste, enfin, en tout cas, le mien de comédienne, je suis au service des auteurs, je suis juste un passeur, et j'ai toujours considéré que mon métier, c'était de rendre compte aussi du monde dans lequel on vivait. Je crois que c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. C'est peut-être pas un hasard si au départ, je rêvais d'être avocate. C'était peut-être aussi une façon d'encore une fois de rendre compte de cet état du monde et chose que je fais indirectement à une échelle très modeste en étant comédienne.
Il vous arrive de chanter aussi, Rachida Brakni.
Oui.
Vous avez fait deux albums, dont un avec Gaëtan Roussel, Accidentally Yours. Est-ce que ça a un rapport avec la poésie? Est-ce que le fait de chanter aide à dire des textes et vice-versa?
Mais je trouve qu'il y a plein de similitudes entre la musique et la poésie. C'est pour ça aussi que j'accepte toujours volontiers quand on me propose des lectures de poésie, d'une part parce que ça me permet de découvrir des poètes. Et surtout, je trouve que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose dans la poésie qui... même si vous ne saisissez pas tout à fait le sens, il y a quelque chose qui vous traverse, c'est comme si ça vous rentrait par les... C'est comme la musique, je trouve que la musique, ça rentre par les pieds. Et la poésie, il y a quelque chose qui rentre dans les pores de son corps. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à analyser forcément. Moi, il y a des poèmes et je me rends compte qu'au quotidien, finalement, il n'y a pas un jour qui passe sans que je n'écoute de la musique et il n'y a également pas un jour qui passe sans que j'ouvre un livre de poésie, ne serait-ce que pour lire quelques vers. J'ai toujours sur ma table de nuit voilà, des recueils de poèmes et sans forcément chercher à comprendre. Il y a, voilà, j'aime bien me dire qu'il y a aussi des choses indicibles qui sont de l'ordre de l'organique et qu'il ne faut pas chercher à intellectualiser. C'est ça que j'aime dans la poésie.
C'est comme ça, Zaya Ziwani, que vous abordez la musique aussi par les pieds. C'est organique chez vous aussi.
Oui, et c'est vrai que beaucoup de choses se jouent. On apprend en étant instrumentiste et encore plus moi en étant chef d'orchestre à être bien ancré dans le sol pour pouvoir justement ressentir les choses. Et puis c'est par là aussi qu'on peut puiser l'énergie pour jouer la musique. Et moi en tant que chef d'orchestre, c'est aussi un vrai sujet, l'énergie, parce que c'est à mon rôle de pouvoir la transmettre à l'orchestre pour qu'après l'orchestre puisse aussi la rendre en musique et puis la rendre au public. Donc oui, l'ancrage dans le sol, les pieds, c'est quelque chose d'assez fondamental pour ressentir la musique. Oui.
Alors des pieds, on va remonter à la voix, on va juste écouter quelques airs, quelques notes d'une chanson que vous avez interprétée donc avec Gaëtan Roussel, Rachida Brakni, Accidentally Yours, Lady Sir, c'est le nom du groupe que vous avez créé en 2017 avec Gaëtan Roussel.
The wind blows warm, too hot for sleeping. Wildfire could start at any time.
Un grand merci à vous, Rachida Brakni, d'être venue ce matin. Bien sûr, vous pouvez rester pour écouter Zaya Ziwani. Je rappelle que vous serez ce soir en ouverture de la Nuit de la Poésie à l'Institut du Monde Arabe à Paris avec Naïssam Jalal. C'est dès 19h. La Nuit de la Poésie à Lima, ce soir, c'est de 19h à 8h demain matin avec de très nombreux invités de marque. Rachida Brakni, on l'a dit, mais Camélia Jordana, Charles Berling, Abdelatif Lahabi, Atik Raimi, Zeina Abirached ou encore Vincent Segal. La nuit promet d'être très belle. Le programme complet et bien sûr sur le site, à retrouver sur notre page des matins du samedi sur franceculture.fr. La retransmission en direct et partielle des Facebook Live seront diffusées une grande partie de la nuit et aussi sur les comptes de Lima, Instagram et Twitter. Et puis ensuite, à partir de mardi 20 sur la plateforme YouTube de Lima, alors là, on pourra retrouver toute la nuit. Restez avec nous parce qu'on va parler de Leonard Bernstein. Je pense que Leonard Bernstein vous parle d'ailleurs, Rachida Brakni. On va en parler avec vous, Zaya Ziwani. Je rappelle que vous êtes chef d'orchestre et directrice de l'orchestre symphonique Divertimento. Et si on va parler de Leonard Bernstein, c'est parce que vous allez diriger mercredi prochain au Théâtre du Rond-Point à Paris, avant une tournée en France. C'est toujours très important de le dire. C'est une soirée exceptionnelle consacrée à Leonard Bernstein. Comment va se passer cette soirée? Parce que là, vous allez diriger non seulement des musiciens, mais c'est un spectacle en fait que vous organisez.
Oui, bah elle va déjà très bien se passer.
C'est sûr.
Et oui, ça, en fait, c'est vraiment, en effet, ça, c'est la réunion entre plusieurs disciplines artistiques autour de ce personnage, Leonard Bernstein. C'est vrai que j'ai eu une...
Personnage, ça c'est le mot.
Oui, une très belle invitation de la Dami, justement, pour pouvoir rendre hommage à un artiste. Et donc, pour moi, c'était assez... évident cette année de consacrer cet hommage à Leonard Bernstein.
Parce que vous aviez un poster dans votre chambre d'ado, hein, de Leonard Bernstein.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux grandes figures de la direction d'orchestre qui m'ont inspiré, donc au XXe siècle. C'était d'abord Sergiu Chilibidac, le chef d'orchestre avec qui a été le maestro, qui m'a enseigné la direction d'orchestre. Et aussi Leonard Bernstein, parce que, voilà, pour son éclectisme aussi, ses inspirations de plusieurs disciplines. C'est vrai qu'il il aimait associer la danse, le théâtre. Il a beaucoup, évidemment, travailler avec le cinéma, la comédie musicale. Donc c'est vrai que cette rencontre entre toutes ces disciplines artistiques, bah, moi aussi, elle m'a toujours guidée dans mon travail artistique. Et j'ai souvent associé justement beaucoup d'univers différents dans mon travail. Et donc, bah, dans le cadre de cette invitation de la Dami, bah, c'était quelque chose d'assez naturel de pouvoir se saisir de cette opportunité pour associer, bah, justement tous les univers qui ont inspiré la création musicale de Leonard Bernstein, sa vie tout au long de sa vie de musicien. Et donc, justement, de pouvoir créer un spectacle qui pourra associer à la fois la danse, le théâtre, le chant. Et évidemment, l'univers de la musique et l'orchestre symphonique, puisque c'était son univers, puisqu'il a beaucoup écrit des œuvres musicales, c'est un très grand chef d'orchestre. Et donc pour moi, c'était vraiment le moment assez rêvé pour pouvoir pouvoir produire ce beau spectacle.
Donc on réunit tous les arts ce matin. Une comédienne chanteuse, une chef d'orchestre qui est aussi metteur en scène, puisque donc sur scène, il y aura des comédiens, des chanteurs, des performeurs, des danseurs, des musiciens. Quelles œuvres allez-vous jouer?
Alors on va jouer principalement des œuvres évidemment de Leonard Bernstein. L'idée étant tout au long de ce spectacle d'avoir de mieux découvrir en fait quel est cet homme, mais aussi ce compositeur, le chef d'orchestre qu'il était, avec à la fois, même si maintenant on garde de lui une image de quelqu'un de très emblématique, qui a beaucoup marqué l'histoire de la direction d'orchestre, de la composition au XXe siècle. C'est aussi une personne qui avait des doutes, qui avait des angoisses, qui avait des envies, des inspirations, des aspirations aussi. Voilà, donc en fait, après je me suis associée à une metteur en scène, Justine Edman, qui m'a aidée aussi à articuler tous ces aspects-là, et pour qu'on puisse écrire ensemble cette histoire où on va évidemment bien sûr écouter les œuvres de Leonard Bernstein, où en plus ce sont des œuvres qui vont pouvoir montrer des aspects très différents de son écriture, de sa
personnalité. Oui, parce que nous, on connaît West Side Story. Quand on pense Bernstein, on pense West Side Story, hein, Rachida Brakni.
Complètement.
Mais il y en a beaucoup d'autres.
Il y en a beaucoup d'autres, en effet, qui sont toutes très intéressantes. Alors, certaines très humoristiques, d'autres plutôt spirituelles, d'autres, plus parfois dans la poésie, justement, parfois un peu plus moderne. Donc, c'est un peu un voyage à travers sa composition qu'on va pouvoir découvrir. Et puis aussi, c'était quand même un grand chef d'orchestre. Donc, c'était, par exemple, un spécialiste de Haydn, de Stravinsky, donc on va aussi jouer une page célèbre des suites de L'Oiseau de Feu de Stravinsky, qui ont été une des pages que lui a beaucoup aussi dirigé. Et puis pour clôturer le concert, alors j'en dis pas plus comme
non.
ça, mais voilà une œuvre emblématique qui n'est pas de lui, mais qui est une œuvre emblématique de musique française, mais qui a été l'œuvre qui lui a donné envie de devenir musicien et de devenir musicien professionnel. Et puis l'aspect un petit peu aussi particulier et original de ce spectacle, c'est que Leonard Bernstein, à son époque, c'était quelqu'un qui était quand même assez à la fois qui s'est inspiré des courants du passé, notamment du jazz, pour renouveler un petit peu le langage symphonique, mais qui a aussi été quelqu'un d'assez moderne, qui s'est beaucoup inspiré aussi de l'urbanité de la ville de New York. Et ça a été le premier chef d'orchestre américain à diriger l'orchestre de New York. Donc c'est une ville qui l'a beaucoup inspiré. Et donc moi, j'ai souhaité retranscrire cet aspect moderne dans notre époque d'aujourd'hui. Et donc, il y aura en effet dans la chorégraphie des danseurs qui sont sous la direction d'un chorégraphe, Anthony Egea, qui vont danser dans une dimension contemporaine et aussi hip-hop et moderne, un performeur qui va faire du light painting en direct, et puis aussi un artiste électro qui va jouer avec nous justement en s'inspirant des rythmes et des mélodies de Bernstein. Donc c'était aussi une façon de pouvoir donner une connotation contemporaine et un petit clin d'œil à notre monde d'aujourd'hui.
Et si on veut avoir une idée de la musique de Bernstein qui est autre donc que West Side Story, on peut par exemple écouter ce que nous allons entendre maintenant et que vous jouerez, que vous dirigerez donc mercredi soir pour commencer. On the Town, on en écoute quelques notes. C'est pas West Side Story, mais en même temps c'est reconnaissable, c'est identifiable. Zayezi Wani, ça tient à quoi?
Oui, ça tient à certaines harmonies. Puis c'est vrai que là, on sent vraiment cette œuvre-là dans On the Town. Ça s'appelle Times Square, et c'est vraiment une illustration, une description de la ville de New York. Donc c'est vrai que c'est ce savant mélange entre l'écriture vraiment symphonique où on sent que c'est un chef d'orchestre qui maîtrise cet univers-là. Donc en utilisant vraiment la richesse de tous les timbres de l'orchestre symphonique, et en même temps, où on sent la musique de jazz. Et il faut arriver. C'est un exercice qui est à la fois passionnant et pas forcément évident, parce que il faut qu'on ressente aussi la souplesse, le swing de la musique de jazz tout en ayant un grand orchestre symphonique. Et c'est aussi ce travail-là que j'adore faire. Et j'ai aussi la chance d'avoir des musiciens qui, à mes côtés, sont très, très engagés. Donc, évidemment, cette année, on va avoir une attention particulière sur ce début de saison, sur les musiques américaines autour de, justement, du personnage de Leonard Bernstein.
Parce que quand même, on l'a pas dit, mais on célèbre cette année son centenaire.
Exactement,
aussi,
c'est le centenaire de son anniversaire de naissance, tout à fait. Et puis voilà, puis après, tout au long de la saison, puisque cette année, c'est les 20 ans de l'Orchestre Divertimento.
Donc qui est votre orchestre.
Exactement, donc on va aussi avoir
un certain nombre de pages
musicales. Et puis on va clôturer notre saison autour de la thématique de la Méditerranée qu'on aime bien explorer, de montrer comment le répertoire symphonique s'est aussi inspiré des musiques populaires des Balkans, d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, d'Espagne. Et donc voilà, c'est tous ces voyages et ces rencontres qu'on aime bien montrer en musique. Et là, vraiment, cette opportunité de pouvoir monter ce spectacle Léni.
Ça vous réjouit, on l'entend.
Oui,
on a l'impression que ça combine absolument tout ce que vous aimez, Zaya Ziwani, avec l'énergie qui d'ailleurs est la vôtre.
Oui, en effet. Et en fait, je pense que mon parcours personnel, ma double culture aussi, et d'ailleurs, Leonard Bernstein aussi en avait une, c'est mon parcours m'a beaucoup aidé à réfléchir à comment j'avais envie d'être chef d'orchestre au 21e siècle. Et donc, à la fois en valorisant notre patrimoine musical français, européen, je trouve que c'est très important de pouvoir transmettre ça aux jeunes générations, aux personnes qui n'ont pas forcément accès naturellement à la musique, mais aussi de montrer que ça a été aussi une musique, on n'a pas forcément toujours le bon regard et qu'il n'y a pas toujours qu'un regard poussiéreux vers le passé, mais qui a toujours été ouvert sur son temps. Et c'est ces rencontres-là que j'aime bien illustrer, et Léni, en effet, on est un parfait exemple.
Comment être chef d'orchestre au 21e siècle et comment transmettre l'amour de la musique? On y reviendra juste après les titres de l'actualité, si vous le voulez bien, Zaya Ziwani. Il est 7h30 sur France Culture et on retrouve notre deuxième invité, puisqu'elles étaient deux ce matin, Zaya Ziwani, chef d'orchestre. On était avec vous, Zaya Ziwani, sur cette idée de transmettre la musique qui vous est chère, hein, qui vous tient à cœur. Mais les enquêtes tombent mal d'une certaine façon, ou tombent bien, parce qu'elles vous donnent du travail. Les études montrent de plus en plus, et la dernière en date, c'est l'enquête d'Olivier Donat, le sociologue sur les pratiques culturelles des Français, qui est faite tous les 10 ans et qui va bientôt être rendue publique. Cette enquête qui montre que l'offre culturelle en France est très riche, mais qu'elle est très mal répartie, qu'elle est finalement très peu partagée par tous. Vous insistez dans votre travail pour montrer que l'excellence n'est pas et ne doit pas être réservée à une élite. Mais on s'y prend comment pour ça ?
En fait, on s'y prend en étant déjà présent là où les gens sont, tout simplement.
Et c'est vrai. Par exemple, à Stein.
Et pendant
Seine-Saint-Denis.
Pendant longtemps, c'est vrai que la musique classique, la musique symphonique, elle s'est développée principalement dans les principales institutions, dans les grandes villes qui l'apportent. Et c'est très bien. Mais c'est vrai que pour beaucoup de raisons, l'Orchestre Divertimento est en résidence à Stein. Et pour moi, ça a été un vrai choix de l'installer là-bas. Bon, il y a beaucoup de territoires où le soir, vous n'avez pas forcément des transports en commun pour pouvoir sortir. Alors, d'aller au concert, ça va, mais pour pouvoir rentrer chez soi, c'est plus compliqué. Des problèmes d'insécurité, d'éclairage public, enfin voilà, des choses qui sont liées aux problématiques que notre société rencontre. Et donc voilà, si on va pas amener la musique classique, la culture sur des territoires, la culture ne doit pas vivre uniquement que dans les grands lieux culturels emblématiques parisiens ou dans les grandes villes, mais elle doit pouvoir aussi être partagée partout. Et donc ça a été un vrai choix avec l'Orchestre Divertimento de commencer notre ancrage historique à Stein, sur le territoire de Pleine Commune, en Seine-Saint-Denis. Et puis après, cette expérience-là, de pouvoir après la partager avec d'autres territoires en France. Et donc c'est un vrai défi qu'on s'est lancé avec justement des collectivités locales, de se dire on n'a pas le droit de décider à la place des publics s'ils ont le droit ou pas d'écouter de la musique classique ou par exemple que des cultures urbaines, mais de se dire il faut aller pouvoir faire cette proposition et puis créer les rencontres pour qu'après justement les publics qui sont riches de toutes ces diversités sociales, culturelles, puissent se dire c'est aussi une musique que moi je peux aller écouter. Et donc voilà, mais c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que là encore maintenant, on donne pas forcément les mêmes moyens à tous les territoires de pouvoir développer des projets, et notamment des projets autour de la musique symphonique. Et c'est pour ça qu'avec l'Orchestre Divertimento, on a essayé justement de s'associer avec un certain nombre d'élus locaux, de partenaires, des structures sociales, éducatives, des lieux de culture, des mécènes. D'ailleurs, je salue notre principal mécène, la Société Générale, qui nous accompagne beaucoup dans tous nos projets, notamment dans
contents.
Le spectacle Léni aussi, voilà.
Mais donc, il faut aller chercher la musique, puisque la musique ne vient pas nécessairement à soi. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait vous, hein, Zaya Ziwani, oui. Puisque vous êtes à la fois femme, jeune, issue de banlieue populaire. Ça n'est pas évident dans le monde de la musique, on le sait. Encore le rapport de la SACD cette année montrait que question place des femmes dans la musique, et encore du travail, hein, parce que sur 326 instrumentistes, seuls 92 sont des femmes. 3% des chefs d'orchestre sont des femmes. Aucune femme n'est à la tête d'un grand orchestre national en France. Donc il y a la question de la population, des endroits où la musique ne vient pas et ne va pas chercher les enfants en particulier. Donc là, il faut apporter la musique. Et puis il y a la question des femmes. Donc vous portez à bout de bras un peu tout ça, quoi.
Bah exactement. Et ça a été vraiment aussi un des sujets quand j'ai commencé à la direction d'orchestre. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de la commencer assez tôt. Je me suis rendu compte que je voyais pas de femmes à la tête des orchestres nationaux. Là, ça fait 20 ans, et 20 ans après, elles n'ont toujours pas eu leur place. Donc voilà, j'ai créé mon orchestre symphonique Divertimento pour avoir aussi l'opportunité de diriger, mais surtout de développer les projets qui me tenaient à cœur, avec les idées qui me tenaient à cœur. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Et donc le fait aussi dans ces différents territoires de voir un orchestre où il y a beaucoup de femmes qui sont présentes.
Dans votre orchestre Divertimento,
oui, tout à fait. Ouais.
Et les places changent, parce qu'on sait que dans les orchestres, la répartition des instruments est plutôt genrée.
Oui, alors c'est vrai que bon, encore dans certains pupitres, on voit comme dans les cuivres ou les percussions beaucoup d'hommes, mais malgré tout, on a aussi nous des femmes qui ont intégré ces pupitres-là. En tout cas, on a une très belle parité qui s'est installée assez naturellement dans l'orchestre Divertimento. Moi-même, en étant femme, donc ça permet aussi de montrer aux jeunes filles que nous rencontrons, aux jeunes garçons également, qu'on peut s'autoriser des grandes ambitions, qu'on peut s'autoriser à faire de la trompette si on est une fille ou de la flûte si on est un garçon. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet autour de la place des femmes dans ce milieu-là. Et à l'heure actuelle, bah, toutes les femmes qui dirigent, nous, les quelques femmes que nous sommes à diriger au niveau national et international, on a toutes dû créer nos propres orchestres pour pouvoir diriger.
Zaya Ziwani, une dernière question. En 2018, c'est-à-dire cette année, vous avez été nommée par Emmanuel Macron au Conseil présidentiel des villes. Ça devient quoi, ça?
C'est une bonne question. En fait, c'est vrai que c'est un endroit où on essaie justement de réfléchir et d'apporter justement toute notre expérience de terrain pour faire évoluer la réflexion du président sur les enjeux qu'il y a autour de la politique de la ville. Et on sait qu'ils sont très très nombreux, ces enjeux-là, autour de évidemment de l'économie, du social, de l'éducation, de la culture. Donc voilà, donc on apporte notre pierre à l'édifice. Maintenant, c'est aussi au pouvoir public de prendre en main tout
L'appel
ça.
L'appel est lancé. Voilà. On a bien compris. Allez, on va terminer en musique et on va boucler la boucle, puisqu'on va écouter une musique que vous aimez particulièrement, qui illustre ce pourquoi vous vous battez au quotidien. C'est la danse macabre de Camille Saint-Saëns.
C'est la danse sarabande. Bacchanal, normalement.
Ah bah pardon, bon.
C'est pas grave.
Bah bon, j'avais vu que c'est une sarabande qui entraîne joyeusement mort et vivant dans le même mouvement.
Ah oui, d'accord, ok, oui.
Sans distinction de classe, elle fauche son passage le pape comme le bedeau. Et en plus, c'est dirigé par Bernstein dans ce qu'on entend là, donc je pensais que la boucle était bouclée.
Merci beaucoup.
Un grand merci à vous, Zaya Ziwani, d'être venue ce matin. Vous serez donc le 21 au Théâtre du Rond-Point à Paris, puis le 27 à Échirolles en Isère, le 29 et le 30 au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, puis à Alès, en matinée et en soirée, à Colombes et pour finir à Stains le 11 décembre. Merci beaucoup.
Merci.